Nous sommes au cinquième Pérec, Mishna Kavbet, Ben Bagbag Omer. Le fils de Bagbag, il a dit. Le fils de Bagbag. Un nom intéressant, Bag. Bon, ça existe des noms intéressants. Mais il y en a qui disent que Bagbag, c'est une abréviation qui veut dire Ben Ger. Ou Ben Gerim, est un fils de Gerim, un fils de converti. Alors, ou lui était un converti, ou son père était un converti. Il y en a qui disent comme ça. Et Bag, c'est aussi la gematria, un Hei. Bet Gimel, c'est Hei, c'est un 5. On dit qu'Avram Avinu s'appelait autrefois Avram. Et après, on lui a ajouté le Hei, Avraham, parce que, qui Av, Hamon, Goyim, Netaticha, je t'ai mis comme père de beaucoup des nations. Ça veut dire qu'Avraham Avinu, il a, à ce moment-là, il a reçu une force de gérer des âmes, des non-juifs, pour les amener d'abord vers les Shevet Mitzvot de Noach, et aussi de les amener vers les 613 mitzvot. C'est pour ça, pour un guer, on l'appelle Ben Avraham Avinu, le fils d'Avraham Avinu. Et dans la Torah, dans son nom, c'est exprimé avec la lettre Hei, Avraham. Le Hei Hamon Goyi, beaucoup des nations, beaucoup des Goyi maintenant, ils trouveront le chemin de la vérité grâce à toi, Avraham. Donc le Hei symbolise qu'Avraham y fait rentrer des guérim. Et aussi Sarah, elle s'appelait Sarai. Donc, il y a un Yud, mais ce Yud a été supprimé. Le Yud, c'est deux Hei. Donc, un Hei a pris Avraham, un Hei a pris Sarah. Donc, Sarai, c'est devenu Sarah. Avraham est devenu Avraham. Donc, ça fait deux Hei. Donc, ça fait deux Hei. Ça, c'est le symbole des Gerim. Alors, Ben Bag, Bag. Donc, il y a Bag, un Hei, un autre Hei. Ça veut dire, c'est le fils de Gerim, ça veut dire son père était un guerre, sa mère était un guioret. Peut-être c'est ça le sens. Un c'est d'Avram, un de Sarah. Donc il est devenu un Tana, un guerre ou un fils de guerre, est devenu un Tana. Un Tana, c'est le top du top qui existe dans, à l'époque de Tanaïm, devenir un Tana, qu'on a son Mahamar dans la Mishnah, et aussi dans la Halakha, dans la Gemara Ben Bag Bagomer. C'est pas seulement dans le Mishnah dans Pirkei Avot, dans la Haggadah, mais c'est un Chacham de Chachmei Israël, Ben Bag Bag Omer, dans la Gemara Kiddushin, tous les Bachurei Yeshiva le savent. C'est un Tana, top du top, Ben Bag Bag Omer. Hafoch ba. Hafoch, retourne ba, dans elle. Ça veut dire quoi? Retourne là, qui c'est elle? Elle, c'est la Torah. Retourne en elle, ça veut dire cherche. Retourne chaque mot dans la Torah, chaque mitzvah, chaque notion, retourner. C'est-à-dire quoi, retourner? Quand on voit un objet, on voit la surface. Mais des fois, en dessous, il y a aussi des informations qui ne sont pas au-dessus. Tu as la carte bleue, alors tu regardes le nom et le numéro. Après, il dit retourner, et là-bas, il y a un code. Et dans la Torah, chaque mot, il y a le devant, après, il y a un code en dessous. Chaque mot est codé, et pour trouver tout ce qui est dans la Torah, dans une mitzvah de tous les côtés, l'expression de Chumash, les détails, la logique, la philosophie, l'histoire, les connexions avec les autres mitzvot, son nom place dans la Torah. Chaque chose est une étude à part. Pourquoi ce pasouk qu'il est ici, quel pasouk qu'il est avant, quel pasouk qu'il est après, quel est dans le contexte, et qui l'a dit, et quelle est la signification et le choix des mots. Tout est une chokhma dans la Torah. Et cette chokhma de la Torah, il faut hafoch, il ne faut surtout pas aller vite. Il ne faut pas regarder la Torah que superficielle. Ce qui est dit de la Torah superficielle, il pige très peu. Il faut connaître, il faut faire superficiel, il faut faire vite, connaître tout le sujet de la Torah. Mais après chaque mot, il faut tourner de tous les côtés pour faire sortir tout le jus qui est dedans, tout le sucre qui est dedans, le miel qui est dans chaque mot. Hafoch ba, hafoch ba. Retourne là, retourne là. Et bah, dans elle, dans les choses, dans tous les détails, tu retournes. Du coup, là-bas, parce que tout est dedans, il se trouve tout dedans, c'est-à-dire toutes les informations que la Torah veut nous donner se trouvent dans la Torah. Il se trouve caché, il faut le découvrir. Quand quelqu'un, il a de la terre, on laboure la terre. L'étude s'appelle dans la Torah aussi labourer. Qu'est-ce qu'elle elle sert à quoi labourer une terre? C'est rendre la terre meuble, c'est écraser. Quand la terre, elle est dure, quand tu sèmes dans une terre dure, ça ne donne pas bien. Il faut l'écraser pour que la terre devienne fine, pour que l'herbe arrive bien, l'humidité et tout. A forba de kulaba, car tout il se trouve dedans. Uba techeze, et dans elle, tu verras. Tu verras quoi? Eh bien, Détani ne te dit pas quoi, mais tu verras. Tu verras des surprises, tu verras des merveilles, tu verras peut-être Thérèse, peut-être c'est Chazon Obadia, Chazon Yeshaya, peut-être c'est des nevoies aussi. Thérèse, tu verras loin. Thérèse, c'est voir loin. Tu verras des choses merveilles qui se trouvent dedans, mais que tu n'as pas vues au début. Tant que tu n'as pas retourné, tu n'as pas vu la chose. Vesiv. Et devient âgé ou bleiba. Blei, c'est achere beloti haitalietna, c'est-à-dire vieillir dedans comme un vin, un bon vin, c'est un vin qui a bien vieilli. Chaque année, tu laisses le vin, les bons vins, chaque année qui reste plus longtemps, eh bien, il devient meilleur. La Torah qui se trouve dans le cœur de quelqu'un, qui réfléchit, qui ajoute, qui. Alors, Siv devient vieux dans la Torah, ou Bleiba, ou Mina, l'Otazua, et d'elle ne bouge pas de la Torah. Ça veut dire quoi? Pourquoi il voudrait bouger de la Torah? Il va dire, je vais autre chose. Eh bien, ne bouge pas de la Torah. She'en lecha mida tova emena, parce que tu n'as pas une meilleure mida qu'elle. C'est-à-dire quoi, mida? Et de quoi une mida, une caractéristique? Il y a pas de meilleure chose. Je veux dire quoi? Alors, meilleure chose, il faut dire chez Enlecha, davar tova emeno, il n'y a pas une meilleure chose. Il utilise le mot mida. Mida, ça veut dire la mesure. Mesure, quand on dit mesure, c'est toujours entre des différents paramètres. On prend la bonne mesure dans chaque chose. Le sucre dans le sang, combien de sucre il faut dans le sang? Il y a une mesure. On se trouve haut, c'est pas bien. On se trouve bas, c'est pas bien. Il faut la bonne mesure. Tous les éléments qui existent, et l'homme il a besoin un peu de fer et un peu ça, un peu ça. Alors est-ce que c'est bien d'avoir du fer? Tout dépend de la mesure. Il n'y a pas de meilleure mesure de la Torah. La Torah mesure les choses bien. C'est-à-dire l'être humain. Et très, très, très compliqué. Et toutes sortes de religions, il existe au monde. Et toutes sortes de pensées existent au monde. Toutes sortes, l'homme, il réfléchit. Et on trouve des bonnes idées. Mais la chokhma, c'est de prendre de chaque chose la bonne mesure. Ça, c'est la grande chokhma. Comme il est dit, hein, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Il y a un proverbe. Exagérer des bonnes choses, il le faut. Quand c'est exagéré, ça devient insignifiant, c'est pas ça. La bonne mesure, la Torah fait la bonne mesure dans chaque chose. La façon de comment la Torah prévoit la vie. On mange, on n'a pas besoin de jeûner. Il y a des jeûnes dans la Torah. Les Yom Kippour, c'est une journée en jeûne. Pas besoin de jeûner forcément 30 jours du début jusqu'à la fin. Jeûner 30 jours et même quand il est 40 degrés. Et hommes, femmes, et pas besoin, c'est l'âme d'Afka. Il faut la bonne mesure dans chaque chose. Il y a des jours de fêtes et de joie, et comment on se réjouit. Et le vin, c'est pas interdit de boire le vin avec la bonne mesure. Chaque chose dans la Torah, il y a la bonne mesure. On se prive pas de se marier, on se marie, mais avec la bonne mesure, dans chaque chose, la bonne mesure. En lecha, midatova emenom, la bonne mida dans chaque chose. Ça se dévoile quand tu retournes, ce n'est pas en regardant une première fois la Torah que tu connais la bonne mesure. Tu verras plein de bonnes choses et tu vas t'exciter peut-être. Et tu vas dire, ça y est, c'est les gens, ils s'excitent pour des choses qu'il faut s'exciter, mais à quel point il faut s'exciter, jusqu'à où? Il y a beaucoup de choses à exciter dans la Torah. Des gens, ils prennent une idée, on la pousse jusqu'au bout, et toujours, il y a cette idée, et on ne démord pas de cette idée, et ça repousse toutes les autres valeurs. Ça, c'est une grande chokhma. Il faut pas que cette valeur repousse l'autre valeur dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a beaucoup de choses, il faut tenir compte. La Torah te donne de bonnes mesures, combien ça et combien de ça et combien de temps on prend pour chaque chose. Et comme un effort pour c'est ça, pour pas que ça fasse autre chose. El Hamida Torah Hemena. Ben Hei Omer, le fils de Hei. Alors qu'est-ce que c'est Hei? C'est encore une fois Hei. Alors il y en a qui disent que c'est encore une fois un guerre. Ou peut-être c'est le même, peut-être c'est Ben Bagbag. Et on le dit Ben Hehe, peut-être c'est la même qui s'appelle comme ça. Ou peut-être c'est un autre guerre, qui est aussi le fils d'un guerre d'une guillorette. Omer, qu'est-ce que lui il dit? Le Fum Tsahara Agra. Selon le Tsahar, selon la douleur, l'effort qu'on investit dans une mitzvah, dans la Torah, Agra, il y a la récompense. Alors, dans l'hypothèse que vraiment il s'agit d'un guerre, on comprend que lui parle selon l'effort, selon le tsar, parce que quand on vient de loin, eh ben c'est plus difficile. Quelqu'un qui est né dans la marmite, il est né dans le peuple juif, il était bercé par ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-grands-parents dans le judaïsme. Et on a déjà eu ça depuis l'héritage. Alors c'est beaucoup plus facile à démarrer dans tout. Mais pour un guerre qui vient d'un autre monde, c'est très difficile. Il doit couper beaucoup de fils, beaucoup de ficelles, beaucoup de cordes. Il doit couper de la pratique religieuse et de la philosophie religieuse et des influences. Et il y a beaucoup de choses. C'est un grand tsar, qu'on dirait que ce Ben Hehe, comme toujours un chacham qui parle, il parle des expériences de sa vie. C'est sa vie, c'est sa personne qui se trouve dans ses paroles. Eh bien, lui, il savait de quoi il parle. Il savait qu'il y avait une grande Sahara pour devenir un Chacham, devenir de tellement loin jusqu'à escalader le plus haut sommet de la Torah, devenir un Tana. Il savait combien de Sahara ça lui a coûté. Eh bien, mais il s'est pas gêné de faire ce Sahara parce qu'il est agra, parce que c'est une grande récompense. Et pourquoi Kadesh Baruch Hu, il a mis sa Neshama au début loin, justement, pour lui donner plus de Sahara. Ça, il y a des gens qui sont nés, si on est dans des familles qui sont pas religieuses, qui sont nés avec un passé difficile. Ça aussi, c'est pas par hasard, c'est aussi un cheshbon du ciel afin de donner justement plus de récompenses. Et quand quelqu'un, il y a une chose qui est difficile pour lui, alors souvent on dit, bon, ça c'est difficile, on prend les choses faciles. Mais il y a quelque chose d'autre, on prend en main, on attrape les choses difficiles. Il paraît qu'ils ont demandé, enfin, le président Roosevelt, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, il était sur une chaise roulante toute sa vie. Une fois, quelqu'un lui a demandé, c'est pas difficile à gérer l'Amérique et le monde entier quand on est sur une chaise roulante. Il a dit, non, c'est pas difficile pour moi. Comment c'est pas difficile pour moi? Il a dit, parce que quand il était enfant, il a eu la maladie, que tout son corps était paralysé. Alors le médecin lui a dit, essayez de bouger votre petit doigt du pied. Il dit, c'est impossible, je ne peux pas. Il a dit, essayez, concentrez-vous. Il a dit, je mis tellement beaucoup d'efforts, juste que j'ai réussi à bouger le petit doigt du pied. Ça m'a coûté tellement beaucoup de tsar que depuis ce moment-là que j'ai réussi, eh bien, plus rien n'est difficile. Tout le reste, il est facile vis-à-vis de ce que je fais. Et ça dit que quand quelqu'un y fait un exploit extraordinaire, ça lui donne après une facilité. Le Fum Tsahara Agra, on reçoit une grande récompense. Alors, Ben Bagbag et Ben Hehe, c'est intéressant, les deux Ma'amarim ne sont pas en hébreu. Les deux ma'amarim sont en araméen. Hafokh ba va hafokh ba découle ba. Normalement, la grande majorité des ma'amarim sont toujours en hébreu dans le Vieux Empire Pirkei Avot. Et ici, il y en a deux. Alors, peut-être c'est des proverbes, pas que eux, ils ont forgé. Peut-être c'était des proverbes populaires. Alors, Hillel, on a déjà vu. Hillel, il a dit Al da teft atfuch, besof metaifayech yetufun. Besof metaifayech yetufun. C'est possible que ce n'est pas Hillel qui a dit ce proverbe, mais c'est un proverbe populaire. Ou Hillel, il a dit parce qu'il voulait toucher les gens les plus simples aussi. Les sages, ils ont toujours parlé l'hébreu. On ne peut pas étudier le Chumash. On ne peut pas étudier la Torah si on ne connaît pas l'hébreu. Ça n'a pas de sens. Il faut savoir lire le texte. Il faut savoir comprendre pour ne pas faire un contresens. Tout ce qui est étudié au Cheder, bien sûr, il est étudié la Shana Kodesh. Mais il y avait des juifs qui n'étudiaient pas. Il y avait des gens, des juifs qui faisaient des mitzvot, comme tout le monde y fait, mais ils n'ont jamais étudié. Et eux, ils parlaient l'araméen. On voit qu'Ezra Sofer, quand il est revenu de Babel, alors ils ont instauré de faire une plus grande Kriyat HaTorah. Chaque lundi, jeudi, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Ezra, on faisait lundi, jeudi de Kriyat HaTorah, trois psukim, un psuk pour le Kohen, un pour le Lévi, un pour Israël. Ezra, il dit, on fait trois psukim pour le Kohen, trois psukim pour le Lévi, trois psukim pour l'Israël minimum. Il a triplé les limuds de Torah. Pourquoi? Parce qu'il a vu que la prophétie disparaîtra. Quand il y a des prophètes, les prophètes, ils parlent, c'est extraordinaire. Un prophète, il parle, le peuple tremble. Mais il savait, Ezra, ça y est, c'est la dernière génération de la prophétie. Après, il n'y a plus de prophètes. Quand il n'y a plus de prophètes, il faut ajouter l'Imoda Torah. On a déjà expliqué ça dans la première Mishnah de Pirkei Avot. Alors, en tout cas, il a dit, il a vu quand il a fait la Kriyat HaTorah, qu'il y a des Juifs qui ne connaissent pas l'hébreu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On va traduire la Torah en araméen, le Targum. Nous avons le Targum Onkelos. Mais Onkelos, il a vécu après le Korban du deuxième Beth Amikdash, Onkelos. Onkelos était un guerre qui s'est converti, qui venait de Romaine, qui était un grand connaisseur des langues du Moyen-Orient, du Proche-Orient, de l'araméen, grand connaisseur. Et il a étudié chez Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Il a dit, je vais traduire le Chumash. Et vous, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, vous allez m'expliquer les finesses de chaque mot afin que je ne me trompe pas. Moi, je vais trouver le mot en araméen, le mot pile, mais vous allez me diriger pour que je comprenne bien le sens. Mais ça, c'est Onkelos. Mais avant Onkelos aussi, il y avait une traduction araméen. Déjà, Ezra Sofer, il a fait déjà une traduction. Il y avait plusieurs traductions. La traduction de Yonatan Ben Uziel. Bon, Yonatan Ben Uziel est un élève de Hillel HaZaken. Il y a le Targum Yerushalmi. Il y a le Targum Suri. Il y a Yonatan Ben Uziel. Onkelos. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dialectes. En araméen, beaucoup de dialectes. Chaque dialecte, il est un peu différent. Quand on lit Onkelos, on lit Yonatan Ben Uziel, ce sont d'autres mots. Même le Talmud du Roshal, il y a quelques mots qui sont un peu différents, malgré que dans les deux pays, on parlait l'araméen, mais c'était l'araméen de Yerushalayim, était un peu différent de l'araméen en Babylonie. On peut le comprendre, mais il faut s'habituer un petit peu. Les dialectes changent, les légers changements des dialectes. Alors, le Tanaïm, toujours, ils faisaient leurs mots, ils disaient leur Mishnayot en hébreu. Mais quand un Tanaï voulait s'adresser à Monsieur Tout-le-Monde, alors c'est possible qu'il parlait, en effet, en araméen, ce que tout le monde connaissait à Hillel, il disait d'être celui l'auteur de ce proverbe, et il a parlé en araméen que tout le monde comprend. En tout cas, ces deux-là, Ben Bagbag, Ben Hehei, ils ont dit leur enseignement en araméen. Soit parce que ça, c'était leur langue dont ils étaient jeunes, donc ils s'exprimaient mieux dans cette langue. Ça, c'était leur langue d'origine. Soit ils voulaient parler à tous les gens simples, à tous les gens aux nouveaux arrivants, aux nouveaux guérim, ils voulaient leur faire entrer, donc ils parlaient un langage pour que tout le monde comprend. Le langage hébreu, c'était considéré, ça c'est le langage des savants, c'est des sages. Mais des fois, les gens simples, populaires, ils ne peuvent pas tellement s'attacher des fois à un langage savant. Aujourd'hui aussi, des fois, il y a un grand scientifique ou un philosophe, des fois il parle des mots, mais c'est des mots qui sont cherchés pour avoir été dans un certain cercle pour comprendre les mots. Quand on parle avec le peuple, il faut parler leur langage. Eux, ils parlaient le langage du peuple, hein, ou peut-être sur leur propre langage. Donc, ils disaient en araméen. Alors, maintenant, il arrive le sixième pérek. Sha'anu chachamim bilshon ha-mishnah. Les chachamim, ils ont enseigné avec le langage de la Mishnah. Baruch shebachar bahem ou mishnatam. Béni ceux qui ont choisi, eux, les chachamim, ou mishnatam et leur enseignement. C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire cette introduction? Sha'anu chachamim bilshon ha-mishnah. Les chachamim, ils ont enseigné avec le langage de la Mishnah. Ça veut dire quoi? Alors, le mot sha'anu, le chien en araméen, en hébreu, ça correspond au tav en araméen. C'est comme si c'était marqué Tanu Chachamim, Chachamim en araméen, c'est Rabbanan. Shanu Chachamim veut dire Tanu Rabbanan. Alors, chaque débutant dans la Gemara, il sait que quand c'est marqué Tanu Rabbanan, ça veut dire qu'on est en train d'enseigner une braïta. Quand la Gemara cite une Mishnah, on dit Nan. Et il y a deux sortes de braïtot. Il y a des braïtot qui commencent Tanu Rabbanan. Il y a des braïtot qui commencent avec Tanya. Et des fois, c'est marqué Tana. Quand c'est Tana, c'est une Tosefta. Une Tosefta, c'est un mot ou quelques mots ajoutés sur la Mishnah. Il était dans la Mishnah, qu'on a enlevé de la Mishnah, on l'a mis dans la Tosefta pour raccourcir, pour alléger le langage de la Mishnah. Mais la Tosefta explique un peu plus. En tout cas, Shanu Chachamim, c'est Tanu Rabbanan, c'est une braïta. Alors, qu'est-ce que c'est Braïta? Braïta, ça vient du mot bara. Bara, c'est extérieur. Bara, c'est toujours intérieur. Il y a l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi les Braïtot? Ça veut dire, ce sont les enseignements des Chachamim qu'on a mis à l'extérieur de la Mishnah. Alors, la Mishnah et la Braïta, les deux, ils ont les mêmes sources. C'est toujours les sources de tous les Tanaïm. C'est la Torah orale qui a été transmise. Alors, chaque Chacham v'Chacham, il a défini, il a transmis les paroles qu'il a entendues de son maître, ou il a ajouté de lui aussi des sentences. Et ça donnait un immense corpus des halakhot de phénoménal. Il est la Zaken, il avait 600 Shishé Sidre Mishnah. Il y a des preuves dans Chazal que les Shishé Sidre Mishnah, nous avons 6, nous avons 6. Nous avons six Sidre Mishnah que c'était depuis Moshe Rabbeinu qu'il a classifié. Il y a des preuves pour ça, que Moshe Rabbeinu, il a déjà pris les halakhot de Torah Shebaal Peh, il a mis un certain ordre des Shishé Sidre Mishnah. À l'époque des Hillel, ils avaient 600 Sidre Mishnah. C'est-à-dire, chaque Seder, il était avec 100 fois grandi pour tous les détails, etc. Et après, Rebbi, il a fait Shishé Sidre Mishnah, il a condensé. Il a mis un condensé, mais il a laissé beaucoup, beaucoup de Ma'amarim à côté. S'il avait voulu faire un livre avec tout ce qu'il a entendu, le livre, il aurait pu être 50 fois plus. Mais il voulait que tous les Juifs y connaissent par cœur, et pas tous les enfants, tous les Juifs y étaient capables, comme dans les générations avant, de contenir, de se rappeler de tous les Ma'amarim. Donc il a dit, il nous faut l'essentiel, qu'on n'oublie pas au moins l'essentiel. Et que ça, chaque juif il doit l'étudier. Donc, de ça, il a fait la Mishnah. Donc, la Mishnah veut dire la Torah orale. Le mot Mishnah existait déjà depuis toujours. Mishnah, c'est toujours existé. Le mot Mishnah veut dire la Torah orale. Et après, il a dit, ça, c'est maintenant la Torah orale abrégée, condensée dans la Mishnah que je fais. Mais il ne faut pas oublier tous les autres Ma'amarim aussi. Donc, il avait dit à ses copains, Bar Kappara, et Lévi, et différentes rabbis. Il y a plein, plein, plein de gens autour de lui. Vous allez collecter tout ce que j'enlève de l'enseignement. Parce que pour pas alourdir trop, vous allez tout collecter, vous allez faire des braïtot. Normalement, tous les Amoraïm, ils connaissaient les braïtot. Parfois, on dit, Shamo, ils ne reconnaissaient pas cette braïta. La grande majorité des Amoraïm, normalement, ils connaissaient tous les braïtot. Et c'est pour ça, quand on pose une couche à un chacham, un amoïri dit une halakha et on dit voilà, la braïta dit pas comme ça, et ben il est cuit, il est obligé de se plier. Soit qu'il apporte une autre braïta, soit il est obligé, tioufta, il est réfuté. Les braïtot, ils ont autant d'importance. Mais quand même, d'abord, il faut étudier les Mishnah. Les Mishnah, c'est encore plus important. Maintenant, le Pirkei Avot que Rebbe il a fait s'arrêter après 5 chapitres. Quand c'était fini les 5 chapitres, Rebbe il a arrêté. Ça, c'est je vais rentrer dans les Mishnah. Mais après, il y avait tous les Braïtot. Maintenant, sont venus les Chachamim, ils ont dit, on va ajouter encore un perek de Braïtot sur la Mishnah. Donc, Shano Chachamim, c'est-à-dire les Chachamim, ils ont enseigné une Braïta, Bilshon HaMishnah, avec le même langage que la Mishnah. C'est-à-dire quoi le même langage de la Mishnah? Ça veut dire quoi? C'est que la même importance que la Mishnah. Alors, pourquoi tu dis Lashon HaMishnah? Alors, l'Inyan, probablement, il est comme ça. On voit que la Gemara était écrite en araméen. La grande majorité des discussions est en araméen. Mais les sentences, la maskana, est normalement écrite plutôt en hébreu. La Mishnah, elle est à 99% en hébreu. Les Braïtot sont en 99% en hébreu. Même les Mahamarim, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, tous les Mahamarim, normalement, ils sont en hébreu. La grande majorité, ils sont hébreux. Et après, quand la Gemara pose les questions, des réponses, alors là, on commence avec un mélange entre hébreu et araméen, majoritairement araméen, aussi avec des paroles en hébreu. Quel est le sens? C'est parce que les discussions, ils se sont faites souvent, en vérité, en araméen. Pourquoi ils se sont fait araméen? Ils auraient pu tout faire en hébreu. Quoi faire en araméen? C'est parce que une seconde. Pourquoi ça faisait en araméen? Pour faire participer les simples. Un simple juif, il doit aussi étudier. Il entend les juifs parler, les chachamim parler qu'en hébreu. Il dit, bon, c'est un cercle fermé. C'est un cercle fermé. La Torah, c'est pour eux. C'est pas pour moi. Ça me dit rien. Quand il entend parler les chachamim en araméen, ah, mais c'est des gens comme nous. Alors, je peux prêter l'oreille, peut-être je peux comprendre. Hop, il comprend. Et il a fait chèque, il va aller à la yeshiva. Donc, beaucoup de discussions, ils se sont faites, en effet, en araméen. Et quand même les halachot, ils ont resté en hébreu. Les Mishnah, la Braïta, et même celle d'Amorim, les sentences sont restées en hébreu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Béhémet, une grande partie de tout ce corpus de la Mishnah, de la Braïta, de la Torah orale, il vient de très loin. Il ne vient pas de l'époque de la Gemara, ni à l'époque de Ezra Sofer quand il est remonté. C'est avant, c'est à l'époque de Nevi'im, de Moshe Rabbeinu, de Yeshua Benoun, de Shoftim, la Torah orale a été transmise. Et comme Moshe Rabbeinu, il a enseigné aux Juifs, bien qu'il a enseigné aussi en 70 langues, Baer Hetev, il leur a donné aussi en 70 langues, mais ça c'était pour les Goyim, les 70 langues et de la Chachamim, ils peuvent connaître quelques Chachamim, des fois c'est important, mais la Torah a été transmise en hébreu. Donc tous les Mahamarim, que Yeshua Benoun, qui dit Shmuel Hanavi, qui dit David Emelech, et tout ça s'était fait en hébreu. À l'époque, les Juifs ne parlaient pas l'araméen. Quand il y avait l'histoire de Chizkia Melech et Rav Shake, il est venu pour essayer de décourager les Juifs. Il était devant la ville et il a parlé en hébreu pour dire aux Juifs, n'écoutez pas votre roi, n'écoutez pas Chizkia Melech qui vous demande de pas capituler. Alors, il a parlé Rav Shake en hébreu. Alors, les ministres de Chizkia qui étaient sur le mur, ils ont dit, monsieur, parlez s'il vous plaît en araméen, parce que nous, les ministres, on connaît l'araméen. Les ministres, ils étaient cultivés, ils devaient parler avec tous les gens du Proche-Orient. Nous, on connaît l'araméen, le peuple ne connaît pas l'araméen. Donc, s'il vous plaît, vous voulez dire quelque chose, vous parlez en araméen. Alors, Rav Shake, il dit, mais non, je continue à parler en hébreu parce que je ne veux pas parler avec toi. Je veux justement parler avec le petit peuple qui est sur le mur et qui nous écoute aussi parce qu'il voulait les influencer, il voulait les décourager, il voulait provoquer une rébellion à l'intérieur de Jérusalem contre le roi Chizkia. Bon, la rébellion n'est pas venue, le contraire. Tout le monde était avec Chizkia. En tout cas, on voit qu'à l'époque de Chizkia Melech, les Juifs, le simple Juif, ne connaissaient que l'hébreu, ils ne parlaient pas l'araméen. C'est après, quand les Juifs ils sont partis en exil, les 70 années, là, ça a commencé l'assimilation, les Juifs ils ont commencé à parler l'araméen. Alors donc, après, Ezra Sofer, il a dit, nous allons traduire maintenant en araméen qui était au Shabbat afin que tout le monde peut comprendre. Mais comme la Torah orale était transmise en hébreu, donc même les Tanaïm ou les Amoraïm qui ont déjà vécu dans une ambiance où on parle beaucoup l'araméen, ils ont inséré leur Mahamarim, leur Maskana de Halakha, dans un langage de la Mishnah, dans le langage de la Shona Kodesh. Donc, Shanu Chachamim, Bileshon HaMishnah, les Tanu Rabbanan, les Braïtot qui étaient enseignés, ce qu'on dit maintenant, c'est aussi Bileshon HaMishnah. C'est aussi écrit en hébreu parce que ça fait partie de la Torah orale qui est venue de génération en génération où le Makor vient de Moshe Rabbeinu et que ça vient depuis toujours. Donc, on ne va pas parler maintenant en hébreu, en araméen. Bachur béni shebachar bahem, béni ceux qui choisissent qui, les chachamim. Parce qu'on a dit, tanu chachamim, ils ont chachamim, tu as cité les chachamim, béni ceux qui choisissent bahem. Alors, qui c'est ce béni? Béni c'est Akadesh Baruch Hu. Akadesh Baruch Hu, il est béni parce qu'il a choisi les chachamim et leur enseignement. Ou peut-être c'est aussi une allusion, Baruch, béni celui-là. Un homme qui choisit Bahem, les Chachamim, que pour lui les paroles des Chachamim sont importantes, Bishnatam, eh bien il est béni. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est la source de la bénédiction. Donc ceux qui s'attachent à la Torah, les Chachamim enseignent la Torah, ceux qui s'attachent aux Chachamim, ceux qui s'attachent à leur Mishnatam, à leur enseignement, eh bien automatiquement, il est béni. Rabbi Meir Omer. Donc Rabbi Meir, il a dit, Kol haosek batorah lishma. Chacun qui osek. Qu'est-ce que c'est osek? Normalement, on traduit osek batorah, il étudie la Torah. Osek, ça veut dire s'occuper. Lit asek, ça veut dire mettre la force dedans, mettre la puissance dedans. C'est un mot un peu plus fort que l'omed de Torah. Osek, il fait de la Torah son occupation. Avec toute sa force, il est osek batorah, la asok bedivre Torah. Kol haosek batorah lishma. Mais on sait que c'est pas seulement l'étude, c'est aussi l'application. L'étude et l'application, bien sûr, ça marche ensemble. Il est osek dans la Torah lishma, pour elle. Ça veut dire quoi pour elle? Pour la Torah elle-même. Ça veut dire pour le kif de la Torah, pour la grandeur de la Torah. Pour le merveille de la Torah. La Torah, c'est merveilleux et il veut la embellir, la Torah. Il est émerveillé et c'est la Torah elle-même qui l'intéresse. C'est le message, le kif, l'intellectuellement, les enseignements sont tellement merveilleux qu'il le fait justement pour arriver, pour avoir ce merveille, sans autre intérêt. Qu'est-ce qui peut être l'autre intérêt? Le kavod que quelqu'un peut recevoir des hommes, ou une parnassa qu'il peut recevoir, ou un sort de pouvoir, alors il ne le fait pas pour ça. Il ne le fait pas parce que c'est un pouvoir ou de l'argent à quelque chose de personnel, mais c'est le kif de la chose. La Rambam, quand il dit Ve'avte teshem lekirote, aime ton Dieu, il dit aimer le Dieu, c'est kiffer Hashem. Aimer Dieu et sa Torah, c'est qui fait la Torah? C'est d'avoir un plaisir, l'étude et l'occupation de la Torah qui procure un plaisir. Quand ça te réjouit, tu aimes la Torah, donc tu aimes Hashem, donc tu aimes quand même le mitzvah de Avtat Hashem Elokecha. L'Ikar, c'est d'avoir un plaisir d'étudier. C'est très important. Le plaisir, ça te fait plaisir? Quelqu'un, il lit un livre de je sais pas, Harry Potter, il est pris dedans et il le kiffe, il est... La vérité, hein, le metach, l'intérêt qu'un homme il a de lire des livres comme ça, la Torah aurait dû être 1000 fois plus. La Gemara t'intéresse tellement, on est tellement excité, 1000 fois plus qu'on est piégé par la Torah. Ça, c'est le vrai, ce qui fait Torah l'Ishma. Quand on nous aurait fait Torah l'Ishma, c'est il est piégé par la Torah, il ne peut plus penser autre chose et il kiffe la chose. C'est comme ça, ça c'est la Torah l'Ishma. Et Rabbi Meir, quand il est, si Rabbi Meir dit qu'on sait que la Torah l'Ishma, il les aurait, ce qui est marqué après, c'est qu'évidemment, Rabbi Meir, il étudiait la Torah l'Ishma, il était zoché Il a compris ça. Il a vécu ça. Et pas que Rav Meir, tous les Tanaïm, évidemment, ils ont étudié Torah Lishma. Quand on voit quelqu'un étudier, nous-mêmes, on étudie. Ce qui est important, c'est de comprendre. Mais ce qui est important, c'est d'être heureux avec ce qu'on fait et d'être content. Il faut être content de la chose. Très important, très, 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 très important. On est juif religieux, Shabbat, il faut être content du Shabbat. Si tu chantes Shabbat et ça te fait plaisir, tu feras la Shabbat. Si quelqu'un il fait Shabbat et c'est sec, il y a quelqu'un qui fait Shabbat, mais il a besoin de minuterie pour voir le match. Pas seulement le match, tout Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu fais Shabbat? Parce que je suis obligé de le faire, je n'ai pas le droit. Baruch HaShem, c'est un grand madriga, vraiment un grand madriga. Pas allumer la télé Shabbat, me faire par une minuterie, en effet, c'est un grand madriga. Mais ce n'est pas encore Shabbat Lishma. Il n'a pas encore kiffé le Shabbat, il n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est le Shabbat. C'est un ordre qu'on est obligé de faire. Obligé, c'est vrai qu'on est obligé de faire, mais il n'a pas encore de plaisir de donner comme ça dans chaque chose. Chaque chose qu'on fait dans le judaïsme, de se sentir bien dedans. Quand la osek batoa lishma zoche le dvarim harbe. Il aurait le mérite de beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est beaucoup de choses? Il n'explique pas. Velo od est là. Et en plus, après, il détaille ce qu'il y a en plus. Mais il ne dit pas qu'est-ce que c'est le dvarim harbe. Alors, soit le dvarim harbe veut dire des choses de ce monde. Il les aurait, pas seulement la Torah, mais il les aurait le kavod, mais il les aurait parnassa, il les aurait une bonne santé, une longue vie. Il y a beaucoup de choses qui sont marquées dans la Torah dans les shruyot, dans ce monde aussi. Maintenant, dvarim harbe, c'est aussi olam haba, beaucoup de choses dans l'olam haba. Pourquoi on le dit pas, on l'énumère pas? Parce que ça c'est pas shoot. Tout le monde y sait. Torah dans l'Olam Haba, ça c'est pas shoot. La Rabban est dit dans Parashat Bechukotai. Quand la Torah nous dit Im Bechukotai Telechu, Met Mitzvotai Tishmeru, Basitem Otam. Si vous allez marcher dans la Torah, vous allez faire la mitzvot. Natati Gishmechem Beitam, je vous donnerai la pluie, je vous donne la pluie, et je vous donne la santé, je vous donne la paix, etc., etc., tout ce qui est écrit. La Ramban, pas que la Ramban, tous les Rishonim me posent la question, mais attends, la première des choses qu'on les aurait quand on fait les mitzvot sur Olam Haba, c'est Triat Emitim, évidemment. Et pourquoi la Torah ne parle pas de ça? Bon, ça, il y a une dizaine de réponses. Alors, la Ramban, il dit une réponse, c'est que la Neshama et les aurait la monde futur, si elle s'occupe de la Torah, c'est naturel. Ça veut dire quoi, c'est naturel? C'est dans la fond de la chose. Une neshama est une partie du Kisei HaKavod qui est éternelle. Et la Torah, ça vient du Kisei HaKavod. Donc, la neshama qui est en phase avec la Torah, eh bien, c'est quelque chose d'éternel, c'est un neshama aussi. Évidemment, la neshama va vivre éternellement. Ça, c'est la chose elle-même. Par contre, sur Terre, un homme qui fait Torah, le peuple juif qui fait la Torah, que la pluie arrive bilom au moment, et les ennemis peuvent rien nous faire, quel rapport? Parce que nous faisons Shabbat, parce qu'on prie, parce qu'on mange kasher, c'est pour ça que le goy n'attaque pas, c'est pour ça qu'on gagne les guerres, ça c'est pas naturel, ça c'est un chidouche. La Torah parle de chidouchim. Yim l'chukotai telechou, sachez que malgré que selon la nature, la pluie et la guerre et tout ça n'a rien à voir, pas grand chose à voir avec le kiyum Torah. Mais je vous promets que j'organiserai, que ce sera quand même comme ça. Mais l'Olam Haba, la Torah ne parle pas parce que ça, c'est dans la nature des choses. Une mitzvah, c'est une force éternelle. Ce qui fait la mitzvah, il a mangé une matière qui est éternelle, donc lui va rester éternel. Donc, c'est possible que c'est ça. Zoché le dvarim harbe. Il aurait beaucoup de choses, je n'ai pas besoin de les énumérer parce que ça va de soi. Velo od. Mais pas seulement les choses qui vont de soi, mais en plus, je te dis encore en chidouche. Velod el shekol haolam kulo, que le monde entier, kedai hulo, elle mérite d'être créée, elle mérite de progresser, elle mérite de grandir, de réussir, l'eau pour lui. C'est pour lui parce qu'un homme qui fait Torah Lishma, eh ben, c'est un merveille. C'est un merveille et Hachem, il organise un monde pour lui, pour qu'il trouve ce qu'il a besoin. Et je pense que j'ai déjà expliqué qu'en vérité, chaque homme a besoin du monde entier pour n'importe quelle chose, tous les jours. Tu veux manger quelque chose, qu'est-ce que tu manges? Tu manges du pain. Donc, il faut bien un terrain où on sème du blé. Et après, il faut un sèmeur, un homme qui sème le blé. Et ce monsieur, il a besoin des chaussures. Pour des chaussures, il faut des animaux. Il faut un abattoir qui prend la peau pour fabriquer des chaussures. Mais pour faire des chaussures, il faut des hommes. Si ces hommes-là, ils ne voient pas bien, il leur faut des lunettes. Pour avoir des lunettes, il faut des ophtalmologues. Et l'ophtalmologue, il faut une université. Pour l'université, il faut des gens qui fabriquent la maison d'abord. Pour fabriquer la maison, il faut apporter des pierres. Pour apporter des pierres, il faut des bulldozers. Il faut des voitures. Et pour avoir les voitures, il faut des caoutchoucs. Pour avoir les caoutchoucs, il faut récupérer d'abord le caoutchouc dans un autre pays. Il faut venir avec des avions, donc il faut fabriquer des avions. Pour fabriquer des avions, il faut une industrie. Bekitsour, chaque homme profite du monde entier et tout est à service de tout le monde. Mais la question, mais pourquoi Kadesh Baruch Hu l'a fait ça, hein? Ça tourne en rond. Chacun, il sert à chacun, mais tachlit. Ça sert à quoi après tout? D'accord, lui il apporte le pain et lui il apporte la voiture et lui il apporte le plastique et lui il fait, d'accord, très bien. Mais à la fin, ça sert, tout le monde sert à tout le monde. Et le but de tout, ça c'est ce que Rabbi Meir dit. Le top du top, c'est Osek Batorah Lishma, c'est ça qui intéresse à Kadesh Baruch Hu le plus. C'est le but, pourquoi Kadesh Baruch Hu il a créé le monde, Torah Lishma, que les gens tombent amoureux de la Torah et qui font la Torah pour la Torah, ça c'est ce qui intéresse le plus Hachem. Et pour que ça peut se réaliser, il a créé le monde. Il a créé un monde entier. Il a créé tout, on a créé. Je me rappelle, c'était Aix-les-Bains quand ils ont fabriqué le TGV. Et la première ligne qu'ils ont fabriquée, c'était Paris-Aix-les-Bains. C'était la première ligne. Paris-Aix-les-Bains, la première ligne. Avant tout le reste. Je ne me rappelle pas qui est-ce qu'il dit à l'époque. Canirec, étant donné que d'abord il faut que quelques Parisiens viennent étudier Aix-les-Bains, il faut que quelqu'un joue Aix-les-Bains et parte à Paris, etc. Et il faut d'abord un peu la Torah. Il faut qu'il y ait de la Torah. Alors d'abord on sert ça. Après on sert le reste aussi. Oui, aujourd'hui il y a du TGV à Toulouse aussi. Canirec, Toulouse aussi, il faut un peu de Torah. Peut-être même beaucoup. Etc., etc. En tout cas, chaque chose, le but, il est pour que la Torah Lishma peut être faite. Kol alam kulo kedai hulo. Nikra Reya. Il s'appelle Reya. C'est quoi Reya? Un ami. Un ami de qui? Il s'appelle un ami. Il est le Osek Batorah Lishma, il est l'ami. L'ami de qui? On ne dit pas l'ami de qui? L'ami d'Akadesh Baruch Hu, est-ce qu'on peut dire ami d'Akadesh Baruch Hu? Peut-être. Peut-être Yedid Hashem sur Binyamin, il est marqué Yedid Hashem, Mishkon Levet Achalav. Il était l'ami de Dieu. Peut-être lui aussi l'ami de Dieu. Ou il est l'ami de Monsieur Tout le Monde. Le Osek Batorah Lishma, il est l'ami, il aime tout le monde et tout le monde l'aime. Torah Lishma, ça donne quelque chose, une amitié. Ahuv, il est aimé. Il est aimé par qui? Par Hachem, par les humains, par les anges, par les animaux, par la nature. Tout le monde l'aime. Ohev et Amakom. Il aime Makom. Normalement, Amakom, ça veut dire Hakadosh Baruch Hu. Il aime Hakadosh Baruch Hu. Mais on aurait pu dire Ohev et Hakadosh Baruch Hu. On aurait pu dire Ohev et Hachem. Ohev et Elokim. Mais il dit Ohev et Hamakom. Quand Hakadosh Baruch Hu est exprimé avec le mot Makom, c'est pas par hasard. Chaque fois, chaque nom que la Torah ou la Tanakh ou Chachamim, quand ils expriment Hachem, il y a des différents noms. Chaque nom signifie une spécificité. Yudke Vavke, c'est kolel tout. Mais makom, qu'est-ce que signifie makom? Makom, ça veut dire tout, tous les endroits. Kabeyachol, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans tous les endroits. Tout ce qui est dans le monde est une expression d'Hachem. Et partout, il y a l'ashgaha d'Hachem. Ohev et hamakom. Le chacham, le osek batora lishma, il aime Akadosh Baruch Hu, la shrina qui est partout. Tout ce qui est dans le monde, il y a sa justification. La Torah touche sur tout, toutes les choses dans la vie. À Mishnayot Kelim, par exemple. La Mishnayot Kelim, il y a 30 chapitres qui définissent des objets. Bon, c'est des objets qui étaient en cours à l'époque de la Mishnah. Toutes sortes d'objets, comment on laboure, et comment ils sont faits les clés, et comment ils sont faits. Des milliers de choses, des objets qui se définissent, qui est Mekabel Touma, quand un objet il est cassé, cassé un peu plus. Un four, il est cassé ici, quelle épaisseur, etc. Toutes sortes de cas et de cas. Quand un homme, il étudie Mesechet Kelim, n'importe quel Mesechet, les Kelim, il s'aperçoit que sur chaque objet de la maison, il y a une halakha. La maskana, il est qu'un homme qui est formé comme ça, partout il voit une Mishnah. Il voit une Mishnah. Les gens qui connaissent Shishi Sidra Mishnah par cœur et qui ça truc dans leur tête, quand il va à une table, ah, il va la Mishnah dans telle et telle maserhet, ah, il est table, il est cassé, un pied un peu cassé. Ah oui, il est cassé. Et ces tables, ça c'est une Mishnah dans Kelim, ça c'est une Mishnah dans Jirchot Shabbat, ça c'est une Jirchot de Touma et Tahara. Il y a toutes sortes. Toute chose qu'il y a dans la vie lui rappelle quelque chose, c'est lié avec la Torah. La Shrina, elle est partout. Ça c'est Ohev et Hamakom. Il aime, Akadosh Baruch Hu, il aime toutes les choses qui vont dans le monde. Ça c'est un pasouk dans le Navi. Et ici, David et Melchi voulait dire ça. Il va Hashem partout où il va. Ohev et Hamakom. Ohev et Abriot. Il aime les créatures. Alors, qui c'est les créatures? Bon, la première explication, sûrement la plus importante, c'est les humains. Il aime les humains. Peut-être il n'aime pas les humains. Peut-être même les animaux, d'une certaine manière. Et Malachim, et toute la nature. Toute la nature, c'est une espèce de musique, une harmonie musique qui exprime Hachem. Et le pshat pshut briot, ça veut dire les humains, bien sûr. Il aime les gens. Pourquoi il aime les gens? Parce que Hachem les a créés, leur a donné une neshama. Donc, c'est la chose la plus importante qui existe au monde, les êtres humains. Donc, il aime les choses. Mais sa mère est à makom. Mais oeb est à briot. Des fois, on n'aime pas quelqu'un. On n'aime pas tout le monde. Cela, je ne l'aime pas. Kanire, que quand on étudie Torah l'ishma, eh bien, on passe au-dessus. Même qu'il y a des choses qui ont raison de ne pas aimer, mais la Torah l'ishma donne des ailes. Elle donne une sorte des amortisseurs. Il peut amortir les gens qui lui font mal. Selon la nature, on n'aime pas ces gens-là. Mais la Torah l'ishma a fait des amortisseurs qu'on ne ressent pas ça. On peut facilement passer dessus. Mais Semeach et Hamakom, il rejouit. Donc Hamakom, Pshat Pashut, c'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Mais Semeach et Hamakom, il rejouit Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, le mot Makom. Il rejouit Akadosh Baruch Hu, ça veut dire parce que Osek Bator l'ishma, il voit Hachem partout. Il utilise tout pour ce que Hachem il veut. Donc Akadosh Baruch Hu, il est content. Akadosh Baruch Hu, il a créé telle et telle chose. Mais est-ce que vraiment les gens ils vont s'apercevoir que la Shrina, qu'il y a un nifla dans cette chose-là. Mais comme l'Osek Batora l'Ishma, il a compris cette chose-là, ça valait la peine pour Hachem de créer cette chose-là. Donc il est Mesameach et Hamakom, et Mesameach et Abriot, il rejouit les Briot. Alors, le fait qu'il rejouit les Briot, est-ce que les Briot le savent? Est-ce qu'ils sont au courant? Ça veut dire les Briot, ils ont la joie. Quand quelqu'un est malade, il est guéri. Il est joyeux. Pourquoi il est guéri? Peut-être la grâce. Il y en a un homme dans le monde qui fait Torah l'Ishma. Est-ce que lui qui est guéri, il le sait? Peut-être il ne le sait pas. Mais ça ne change pas. Mais la vérité est quand même que lui, c'est meilleur. Ou peut-être par des chemins inconnus à nous. Ils le savent, peut-être quelque part, les gens, ils savent d'où ça vient. Umal Bashto Anava. Et ça le fait habiller avec modestie. La Torah, l'Ishma, fait habiller l'homme avec la modestie, veira et la crainte. Ça l'habille, c'est intéressant le mot, l'habillement. Mais ça, c'est un grand inyan dans la Torah. On dit Hashem Malach Geout Lavesh. Dieu, il est le roi, Malach, il règne. Geout, la fierté, la grandeur, la prestance. Lavash, il est habillé. Un roi, il est habillé avec des habits de prestance. Hashem Geout Lavesh. Il y a quelque chose dans la Gaava ou dans la Anava. Il y a quelque chose qui s'appelle un levouche, un habit. Et quand la Torah nous dit pour Shavuot, Vechibesu simlotam, préparez-vous dans 3 jours, Vechibesu et vous allez laver vos habits. Jad Pashut, pour arriver au matin de Torah avec des habits propres. Et pourquoi la Torah doit me le dire? Pour dire que c'est une fête. Une fête, on va avec des habits propres. Que Shabbat, Yom Tov, ce qui va avec un habit sale, un garagiste qui a plein un bleu de travail avec de l'huile dessus, s'il vient comme ça à la shul, à Chilul Shabbat, les habits propres, malbouche, naki, un habit de fête, c'est Meïka de Shabbat, c'est la fête avec Hachem, le rencontre avec Hachem, c'est une fête, c'est pas un moment de torture. On y va à la shul, c'est pas une torture. Ça ne doit pas être un terrible avec Yir'a et Simcha, c'est une prestance, un kavod. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'habit. Quand on dit vous lavez les habits, le chvot shvuot, ce n'est pas seulement les habits propres. Les habits, c'est les midot de l'homme. Les mitzvot de l'homme, c'est l'homme lui-même. Et l'habit, ce sont les midot. Qu'est-ce que ça veut dire le midot? C'est la façon comme on se comporte après. Par exemple, un homme, il est soldat, il a un habit de soldat. Un policier, les habits de policier. Un cuisinier, il les habits de cuisinier. Un infirmier, il a un habit d'infirmier. Ça veut dire quoi? Il se comporte à l'hôpital selon les règles de jeu d'un infirmier, d'un médecin. Il y a des règles. Un policier, il a des règles comme il se comporte. Maintenant, un homme, il peut avoir plusieurs casquettes. Un homme, il peut être le père de la famille, il peut être le maire de la ville, il est aussi médecin à l'hôpital, et du temps en temps, il peut se faire policier, etc. Et chaque fois, il va changer son habit. Et selon l'habit qu'il change, il est dans une autre sorte d'esprit. C'est l'esprit et les midot que vous avez appris en Égypte. Il faut laver tout ça. Il faut enlever la crasse pour arriver que le neshama arrive propre au matin de Torah. Ça, c'est l'inyan. Beaucoup de choses dans la Torah. Il y a une cinquantaine. La Torah parle des habits. Adam Arishon, la première des choses, il s'habillait. Après qu'il a fauté, il s'habille. C'est la première des choses. Il y a beaucoup de fatoirs. Il y a un habit. Il y a beaucoup d'habits dans la Torah. Chaque fois, il s'agit des midot. Ici, la Torah, elle utilise ou malbashto anava. Il est habillé avec anava. Comme si tout son corps, il est trompé dans la anava. Anava, ce n'est pas quelque chose, un détail. C'est, on fait encore ça, c'est un geste, on fait ce geste. Ce n'est pas un geste. C'est tout son corps, il est trompé dans la anava, veillera, et dans la crainte d'Hachem. Ou marcharto, liot tzadik. Et la Torah, l'Ishma, marcharto, et le prépare, cachérisé. Marcharto, ça vient de, ça le cachérise. Quand on prend une marmite, et on a cuit dedans la viande pas cachère, eh ben on peut plus cuire quelque chose cachère, ça va, le goût de pas cachère va rentrer dedans. Donc il faut cachériser la marmite. On met dans l'eau chaude, on le fait passer par le feu il brûle le goût de chazir, ou l'eau chaude, l'eau bouillante, il va extirper ce goût de chazir. Ça s'appelle cachérisation. Cachérisation, c'est préparer, c'est cachère. Ça veut dire quoi? Kacher, prêt à l'emploi, bien préparé comme il faut. Kacher ani be'enav. Esther lui dit Kacher ani be'enav. Alors, Marcharto, elle prépare l'ihiot tzadik, pour être tzadik. Pour être tzadik, il faut des préparatifs. Et les préparatifs, c'est d'enlever toutes les choses qui sont mauvaises dans le corps. Maintenant, comme il dit le Gandavine, il y a différentes façons comment un homme il peut enlever les mauvaises choses. Alors, on peut travailler sur une mida, on dit du moussard, contre telle et telle chose, jusqu'à extirper comme ça. Mais il y a quelque chose de clali qui s'appelle l'étude de la Torah Lishma. Le fait qu'on étudie la Torah Lishma, c'est un appareil qui marche à l'autre. Ça enlève les mauvaises choses qui sont dans l'homme. Et se prépare que l'homme il a une facilité de devenir tzaddik, même devenir chassid. Chassid, c'est plus que tzaddik. Tzaddik, c'est ce qui applique ce qu'il est obligé de faire. Chassid, ce qui applique plus qu'il est obligé de le faire. Ça le permet que c'est facile après d'être chassid. Veyachar, et il devient droit. Il est droit. C'est un homme droit. Il y a droit, hein, il n'y a pas droit. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer bien, mais on sent c'est droit et ce n'est pas droit, c'est une ligne droite et ce n'est pas une ligne droite. Il y a des gens qui se comportent d'une façon ou ils parlent d'une façon. C'est droit ou ce n'est pas droit. C'est comme ça. C'est droit, c'est comme ça. C'est comme la tzniout. Qu'est-ce que c'est marcher bitzniout? Alors, c'est pas mesuré par des mesures géographiques, des géométriques. C'est tsanoua ou c'est pas tsanoua? C'est comme ça. Ça, lui, il a habillé tsanoua, elle a habillé tsanoua, elle a habillé pas tsanoua. Non, pas besoin de prendre de centimètres ou des choses comme ça. C'est pas une mesure, c'est pas un kezaïd ou kebeitza, un volume, et d'arba tfahim, asara tfahim. Ce sont des choses qui sont mesurées. C'est tsanoua ou pas tsanoua. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le sentiment humain qu'on sait. Lui, il est discret. Lui, il n'est pas discret. Tsniout, c'est discrétion. Lui, il est yachar. Il est droit. L'autre, il n'est pas droit. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas droit, ce que vous faites. Mais yachar, mais ça prépare. Pour être yachar, ce n'est pas facile d'être yachar. Parce que l'homme est Kol Ha'adam Kosev, comme il dit David Emelech. Kol Ha'adam Kosev, ani amarti bechovzi, Kol Ha'adam Kosev. Moi, je dis bechovzi. Quand David Emelech, il se sauvait de Shaul Amelech, et il a vu tous les ennemis autour, je dis à ce moment-là, Kol Ha'adam Kosev. L'être humain, Kosev, c'est un mensonge. L'homme, il est constitué avec beaucoup de mensonges. Ce n'est pas facile de devenir droit. C'est un grand madriga. Et lire la Torah, étudier Torah Lishma, c'est une route pour aider à être yachar, vene eman, et de confiance. On peut faire confiance. Sa parole, c'est une parole. On peut faire confiance qu'il ne ment pas, qu'il ne triche pas, qu'il ne cherche pas à t'induire en erreur, qu'il ne cherche pas son intérêt quand il donne un conseil. Et quand tu lui confies un secret, ça ne va pas sortir de sa bouche. Nehemanout, il ne va pas utiliser ce que tu confies, il ne va pas utiliser pour te faire du mal un jour, faire sortir ce que tu lui as confié des fois. Tu confies une parole à quelqu'un, tu dévoiles un peu tes faiblesses ou tes problèmes et tout. Et après, je ne sais pas, 10 années après, on se fâche avec lui et il peut faire sortir la chose. Ah, mais monsieur, je ne vous ai pas confié pour que vous jouiez après ça contre moi. Non, ce n'est pas pour ça. Je vous ai confié un secret, il faut le garder pour vous. Nehéman, il y a des chachamim, il y a des grands chachamim qui étaient toujours existés. Ils connaissaient des milliers de secrets des gens. Les gens venus chez eux, des Baal et Tshuva et des trucs. Ils racontaient des choses Il y a des tzaddikim comme ça dans chaque génération. Et ils connaissaient tellement beaucoup de choses. Et ils n'avaient pas le droit de dire. Ils auraient pu le dire, ils auraient pu dire, ils auraient pu arranger des choses. Mais Nehéman, on donne une parole, monsieur, je vous confie quelque chose. Mais ça reste entre nous. Oui. Eh ben, oui, c'est un oui. Et ben, les médecins, ils ont ce problème. C'est un grand problème dans le monde. Le médecin, est-ce qu'il le dit quand il connaît un secret, quand quelqu'un il est malade ou il est psychologue, toutes sortes de choses. Comment on gère le Nehemanout? C'est pas pachout. Le Nehemanout, la Torah Lishma donne qu'un homme devienne Nehéman. Marach tato minachet. Et ça l'éloigne du péché. C'est la Torah Lishma fait une sorte que l'homme il s'éloigne du péché, il ne se rapproche pas au péché ou me car batoli des route, et ça le rapproche vers du mérite. Ça fait d'une sorte que beaucoup de mitzvot vient à sa main, se présente à lui, et a une facilité de faire beaucoup de mitzvot. Bon, à demain, Bezrat Hashem.